Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, sur quoi devra plancher l'Europe ? Profitons-en, dans quelques heures, il ne sera plus possible de commenter la campagne des élections européennes conformément aux règles de la période de réserve. S'agissant des opérations de vote, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ont déjà ouvert le bal. L'Italie le fermera dimanche à 23h. Alors les enjeux de ces élections sont nombreux. Il y aura d'abord celui de la participation pour une élection qui est traditionnellement marquée par une forte abstention. Ensuite, elles vont permettre de mesurer l'état des forces politiques au niveau national. L'occasion d'observer en France, par exemple, l'état de la recomposition du paysage. C'était notre sujet de vendredi dernier. Mais l'enjeu principal, c'est évidemment l'avenir de l'Europe. Un avenir qui ne dépend pas exclusivement d'ailleurs du résultat des européennes. Ces élections ouvrent une séquence de 5 années au cours de laquelle va être installée une nouvelle commission, un nouveau président de la Banque Centrale Européenne, avec à l'agenda de nombreux dossiers, fiscalité, immigration, défense, environnement, compétition économique, bref, sur quoi devra plancher l'Europe ? C'est le thème de notre émission ce soir, et comme nous sommes vendredi, c'est le Club des idées, avec Coralie Delhomme, bonsoir. Coralie Delhomme, on va ouvrir votre micro comme ça on pourra vous entendre. Vous êtes essayiste et vous avez publié cette année avec David Cayla chez Michalon 10 questions plus une sur l'Union européenne. Pour discuter avec vous, Laurent Bigorgne, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'Institut Montaigne. Je suis allé sur le site de l'Institut et j'ai vu qu'en une, on pouvait voir l'Europe dont nous avons besoin. C'est un rapport qui avait été fait pour l'Institut Montaigne, justement. Et puis, notre troisième invité, c'est Sylvain Kahn. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et géographe. Vous connaissez bien le club puisque vous en avez fait partie. On vous réinvite de temps en temps. Professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Et vous venez de publier « Le pays des Européens » avec le géographe Jacques Lévy. Et c'est publié chez Odile Jacob. Alors, je le disais, l'idée de l'émission de ce soir, hein, ça n'est pas de faire des pronostics sur qui va gagner, qui va perdre les élections, ça on verra bien dimanche soir, mais de se projeter un petit peu dans les jours d'après pour voir quels seront les dossiers importants à traiter. Est-ce qu'on peut déjà dire, étant donné l'actualité, que la mise en œuvre du Brexit sera le dossier urgent à traiter pour le nouveau Parlement européen, Sylvain Kahn ?
Je ne pense pas. Non pas que la mise en œuvre du Brexit ne soit pas importante, et bien entendu, elle est très importante, mais ce n'est pas vraiment un sujet qui sera au cœur de l'activité du Parlement européen.
Y compris avec des eurodéputés britanniques.
Alors, sur les eurodéputés britanniques, effectivement, ça met vraiment du sel à cette élection, pour ceux qui trouvent qu'elle est un peu fade, parce que, sous réserve des résultats qu'on va bien entendu connaître demain soir, les Britanniques ont voté jeudi, et toutes les enquêtes sur les intentions de vote donnaient en tête gagnant le retour de Nigel Farage, celui qui a quand même été le grand inspirateur du Brexit et qui est revenu dans la course politique avec un nouveau parti qui s'appelait le Parti du Brexit. Et il était donné en tête à 32, 33, 34%. Mais alors si Monsieur Farage et ses élus sont cohérents, ils vont venir au Parlement européen pour dire « ça ne sert à rien d'être ici et nous ne voulons pas y être ». Et donc, dans cette hypothèse, le retour des Britanniques, ou plutôt le maintien des Britanniques le temps que le Brexit ait lieu au Parlement européen, sera plutôt quelque chose d'un peu neutre. C'est un peu comme s'ils allaient, d'une certaine manière, neutraliser ou geler leur siège.
Quelque chose d'un peu neutre et à la fois sans doute un effet de curiosité que de voir ces eurodéputés britanniques s'installer au Parlement européen pour une durée indéterminée, Coralie Delhomme.
Oui, pour une durée indéterminée. Et ce qui va être intéressant à observer, c'est au moment où ils vont quitter. Parce qu'à ce moment-là, il y a un certain nombre d'autres eurodéputés qui seront en quelque sorte des élus de réserve et qui vont. Alors, il n'y aura pas des gens qui vont remplacer l'intégralité des eurodéputés britanniques, mais il y aura des gens qui vont entrer au Parlement européen parce que certains pays, à la faveur du Brexit, vont gagner un nombre d'eurodéputés supplémentaires. Et c'est le cas de la France, elle en gagne 5, et il me semble que l'Espagne aussi. Voilà, donc il y aura des gens dimanche soir qui seront élus mais qui ne siégeront pas immédiatement.
Ça donne un intérêt particulier à ces élections européennes. Pour vous, Laurent Bigorgne, ou au contraire, ça perturbe le scrutin ?
En fait, j'ai le sentiment que ni l'un ni l'autre. Ça va perturber à la marge le fonctionnement du Parlement, mais on parle quand même d'un Parlement qui compte de plusieurs centaines d'eurodéputés. Ça dit aussi pourquoi un certain nombre de pays, dont la France, insistaient énormément pour qu'on en ait fini avec le Brexit avant cette élection européenne, et je trouve que ça aurait été beaucoup plus cohérent. Ce dossier est ouvert depuis 3 ans, et comme le disait Sylvain Kahn, on a bien d'autres dossiers beaucoup plus sérieux, beaucoup plus importants, une fois que la décision par les Britanniques est prise. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une décision importante, mais une fois qu'elle est prise, qu'elle est unilatérale, on a beaucoup d'autres choses à voir entre Européens qui souhaitons continuer à travailler ensemble.
Alors ce qui est annoncé pour ce scrutin, c'est un niveau d'abstention important. On verra bien ce qu'il sera là aussi dimanche soir, mais on sait que les élections européennes, ce ne sont pas des élections qui... on va dire, motive qui mobilise énormément les électeurs. Sylvain Kahn, est-ce que la légitimité du Parlement européen pourrait être affectée par une forte abstention ? Ou bien est-ce que les pouvoirs qui lui sont attribués ne dépendent pas ni du niveau d'abstention, ni du niveau de participation, ni d'ailleurs peut-être des résultats et de la répartition des voix ?
Alors, je vais vous faire une réponse en crabe, Hervé Gardette, parce que...
Je ne connais pas ce...
Est-ce que cette question se pose avec un Parlement national ? Est-ce qu'on dit, par exemple, que lorsqu'il arrive qu'en France, il y ait plus de 30% d'abstention aux élections législatives, l'Assemblée nationale élue est moins légitime que celle qui a été élue avec 75% de participation 5 ans avant ? En général, on ne dit pas ça. Donc, du coup... Pourquoi le dirait-on pour le Parlement européen, qui est un Parlement élu au suffrage universel, dans le cadre, en tous les cas, d'un système représentatif, même si après on peut avoir des discussions sur y a-t-il ou non un déficit démocratique.
Donc peut-être ça, parce que c'est une institution relativement fragile, en tout cas aux yeux des électeurs, hein, qui n'est pas installée de manière totalement pérenne comme étant un lieu important de pouvoir. Donc,
Alors je vais vous faire une deuxième réponse, plus directe celle-là, qui est que d'abord le taux d'abstention...
On n'est plus dans le crabe, là, on est dans quoi ?
On n'est plus dans la stratégie du crabe, on est dans celle de l'espadon. Hein. Là, en l'occurrence, le taux de participation ou d'abstention, d'abord, est très divers selon les pays. C'est-à-dire que il peut aller, si on s'en réfère aux élections précédentes il y a 5 ans, puisque les européennes ont lieu tous les 5 ans, toutes les années en 9, toutes les années en 4, eh bien, en Slovaquie, par exemple, le taux de participation il y a 5 ans était de 13%. Tandis que dans des pays où les élections sont obligatoires, comme en Belgique, comme au Luxembourg, comme à Chypre ou comme en Grèce, la participation peut monter à 75 voire 80%. Donc déjà, rien qu'avec ça, on se retrouve avec un taux de participation moyen qui a une valeur indicative, mais qui fait que, si je vous suis bien, Hervé Gardette, dans certains pays, on va dire « Ah, ce Parlement est illégitime », tandis que dans d'autres, on dira « Il est très légitime ».
Pour que ce nouveau Parlement européen, Coralie Delhomme et Laurent Bigorgne, ait un poids politique important, alors il y a bien sûr des textes hein, qui répartissent les pouvoirs entre ce qui relève de l'exécutif et ce qui relève du législatif, mais est-ce que vous diriez-vous qu'il est quand même nécessaire que la participation soit la plus massive possible ? Et question subsidiaire, est-ce que le poids du prochain Parlement va aussi dépendre de la configuration politique qui va sortir des élections, Coralie Delhomme ?
Quant à l'abstention, moi, ça ne va pas ni relégitimer, ni. Enfin, une faible abstention ne relégitimerait pas, une forte abstention ne va pas délégitimer, puisqu'en fait, ce Parlement européen, il n'a ni représentativité, ni réel pouvoir, en fait. Enfin, il en a quelques-uns, mais très peu, c'est marginal, comparé à d'autres structures qui, elles, ne sont pas du tout élues. Je pense à la Commission, à la Cour de justice de l'Union, qui prend des décisions très importantes. Encore récemment, elle a validé le principe des tribunaux d'arbitrage privés, s'agissant du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Peut-être on reparlera tout à l'heure du libre-échange. Donc la Commission, la Cour de justice de l'Union, pour tout ce qui est monétaire, la Banque centrale européenne, qui parfois va même et s'octroie des prérogatives qui vont beaucoup plus loin que la simple politique monétaire et à laquelle il est arrivé d'intervenir dans tous les domaines de l'économie jusqu'à aller, par exemple, au début des années 2010, envoyer des lettres au Premier ministre espagnol ou italien pour les sommer de faire une réforme de leur marché du travail. Et tout ça, évidemment... Alors, il y a le Conseil aussi. Le Conseil qui est beaucoup monté en puissance à la faveur des crises. Voilà.
Voilà, le Conseil, il faut rappeler, hein, ce sont les gouvernements qui,
voilà,
qui sont
présents par les États. C'est la partie intergouvernementale de l'UE. Mais ce Parlement européen, c'est presque la moins puissante des institutions de l'UE. Et en plus de ça, il a une représentativité très faible parce qu'il représente quoi en réalité ? Il ne représente pas... Le Parlement national représente le peuple français. Le Parlement européen, c'est une addition de représentants de 28 peuples.
Laurent Bigorgne.
Oui, alors ça commence évidemment le désaccord au sens où... Il ne faut pas voir les choses de façon trop française. Parce que l'Europe, ce n'est pas la France en plus grand. L'Europe, c'est d'abord l'Europe. Et c'est une décision souveraine des États européens et de leur peuple que d'avoir créé des institutions. Et évidemment, ces institutions, parfois, il arrive qu'elles surplombent les institutions nationales, mais on a décidé souverainement. Et on est libre d'en sortir.
On a décidé souverainement de renoncer à une partie de sa souveraineté.
Non, on a décidé souverainement de mettre en commun de la souveraineté.
On dit renoncer au profit d'entités
techniques. Ça, c'est jouer sur les mots. Mais non, c'est un choix qu'on a fait, on ne nous l'a pas imposé.
Bien sûr.
On ne nous l'a jamais imposé. Donc oui, non. Il ne faut pas que nos auditeurs croient qu'il y aurait une main invisible et un copro mondial ou un complot qui viendrait je ne sais où.
Ce sont des rapports de force.
On a choisi. Et on peut en sortir.
On peut en
sortir. La preuve, c'est que les Britanniques l'ont fait.
Et est-ce que le Parlement européen est un lieu important de l'exercice de cette souveraineté pour Laurent Bigorgne?
Mais, si vous voulez, en France, on a une maladie, c'est qu'on lit les institutions à notre seule aune. Et donc, on est mal à l'aise avec le Parlement européen, qui est un vrai Parlement, au sens où on y fait du travail parlementaire. C'est d'ailleurs pas un hasard si aujourd'hui, certains pays sont beaucoup plus en phase avec cette culture parlementaire qui n'est pas la nôtre. On est un régime très présidentiel, vous le savez. Et donc, il y a des pays qui aujourd'hui sont très à l'aise avec les débats au Parlement, sont très à l'aise avec la façon d'y travailler. Et je le dis pour nos auditeurs, c'est une institution très importante. Alors, comme partout, une décision qui va être entérinée au Parlement européen n'a pas nécessairement une traduction immédiate. Mais c'est vrai dans la loi française. On ne cesse de se plaindre en France qu'il faut un an ou deux entre un moment où on prend un texte et le moment où ce texte entre dans les faits. Mais elle a, je veux dire, toutes les décisions qui sont prises au Parlement ont des conséquences structurantes sur quantité de chantiers qui occupent la vie quotidienne des Européens aujourd'hui. C'est vrai.
On sous-estime le poids politique du Parlement européen pour vous, Sylvain Kahn ?
Oui, on le sous-estime parce que d'abord, le Parlement européen, dans le système de l'Union européenne, n'a cessé d'augmenter ses pouvoirs, ou les pouvoirs du Parlement européen n'ont cessé d'augmenter, depuis 1979, année où il a été élu pour la première fois au suffrage universel. Alors il est vrai que il a certains pouvoirs qui sont... Enfin, il y a certains pouvoirs qui habituellement sont dévolus au Parlement, dans les régimes parlementaires des États nationaux, dont le Parlement européen ne dispose pas. Ça, c'est sûr, notamment celui de voter les recettes budgétaires. Hein, il y a cette fameuse maxime anglaise qui dit « no taxation without representation », qui est un peu considéré comme le motto de la démocratie représentative, qui dit que voilà, bah, de toute manière, le budget étant l'acte citoyen et souverain par excellence d'un pays, d'une nation, d'une communauté, il faut absolument que les représentants du peuple puissent voter les recettes budgétaires. Et c'est vrai que le Parlement européen ne vote toujours pas le budget de l'Union européenne. Bon, néanmoins, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ces pouvoirs sont devenus de plus en plus importants. Et sur tout un tas de sujets, on peut maintenant considérer que l'Union européenne est un système bicaméral. Il y a la Chambre du peuple élu au suffrage universel, qui est le Parlement européen, pour qui on est en train de voter en ce moment. Et puis, il y a la Chambre des États, qu'est-ce que vous appeliez tout à l'heure l'un et l'autre le Conseil de l'Union européenne, où il y a les représentants des États membres. Et d'ailleurs, nous, on peut même se demander, c'est une proposition qu'on fait dans le Pays des Européens avec Jacques Lévy, là, le livre que vous évoquiez tout à l'heure, si on voulait vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, faisons comme aux États-Unis, c'est-à-dire élisons également au suffrage universel les représentants des États membres au Conseil de l'Union européenne. Parce que là, aujourd'hui, quand on demande à un ministre, membre d'un gouvernement national, de siéger dans cette deuxième chambre, dans cette espèce de Sénat de l'Union européenne, ça veut dire qu'il a à la fois la casquette de ministre d'un État membre et en même temps la casquette d'un représentant d'une deuxième chambre au sein de l'Union européenne.
Et pourquoi pas pousser cette logique avec la Commission européenne, sauf à considérer que c'est une commission et que les commissaires, parce que ça va être aussi un des enjeux des prochaines semaines. Si tout se passe bien, on pourrait même avoir au moins le président ou la présidente de la nouvelle Commission européenne dans le courant du mois de juillet. On verra bien après qui seront les commissaires, mais que considérer que la Commission, elle procède déjà d'une légitimité démocratique qui lui est accordée, si ce n'est directement, en tout cas indirectement, par le Parlement européen, Sylvain Kahn ?
On peut le considérer, puisque dans les textes, le président de la Commission européenne est désigné par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, mais cette désignation doit être ensuite confirmée par un vote à la majorité au Parlement européen. Et ensuite, c'est chaque État membre qui désigne un commissaire, C'est-à-dire, il dit, voilà, bah, pour l'Italie, donc on va avoir, par exemple, un commissaire d'extrême droite dans la prochaine commission. Si toutefois, l'actuel gouvernement de coalition entre l'extrême droite et les antisystèmes est toujours au pouvoir. Et chaque commissaire est auditionné par le Parlement européen. Et on a vu ces 10 dernières années des candidats à la Commission européenne être recalés par le Parlement européen. Donc oui, on est sur un système, effectivement, où il y a une double légitimité du président de la Commission et de chacun des commissaires. Et si vous le permettez, je voudrais juste,
brièvement,
très brièvement, rappeler que, s'agissant de la Banque Centrale Européenne, elle est indépendante. Et cette indépendance a été le fruit d'une longue négociation entre, à l'époque, l'Europe des 12. D'accord ? Cette indépendance de la BCE, c'est quelque chose d'assez répandu. La Federal Reserve, c'est-à-dire la Banque Centrale des États-Unis, est indépendante. La Bank of England est indépendante. Donc le fait que la Banque Centrale Européenne prenne un certain nombre de décisions n'est pas forcément le signe d'une dépolitisation.
La Banque Centrale Européenne, en tout cas, elle va être entraînée, comme les autres institutions européennes, le Parlement, la Commission, dans une vague de changements, puisque le mandat de Mario Draghi va s'achever le 1er novembre prochain. C'est un mandat qui n'est pas renouvelable. Il va donc y avoir ce renouvellement de la Commission qui va succéder à Jean-Claude Juncker, qui seront les commissaires. Est-ce qu'on peut dire que les principaux chantiers, en tout cas dans l'immédiat, ça va être des chantiers institutionnels, la répartition des pouvoirs au sein de l'Europe, Coralie Delhomme?
Oui, alors il va y avoir tout un mercato après les élections européennes. Il va y avoir le changement d'abord la composition des groupes. Ensuite, il va y avoir la désignation du président du Parlement européen et des vice-présidents. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je voulais ajouter une chose que le Parlement européen ne peut pas faire et qui est absolument déterminante, c'est qu'il n'a pas la main sur les traités. Le Parlement européen ne peut pas modifier les traités. Or, dans les traités, un certain nombre de choses sont gravées dans le marbre et qui conditionnent de manière très étroite les politiques économiques qui sont menées à l'échelon national. En fait, ce que certains appellent la mise en commun, c'est en vérité l'organisation d'une dépossession. Les États se sont dépossédés d'un certain nombre d'instruments de politique économique, la politique monétaire, la politique de change, la politique budgétaire, par d'abord le pacte de stabilité, ensuite par d'autres textes, c'est-à-dire le two-pack, les textes contenus dans le two-pack, dans le six-pack, qui encadrent très étroitement la mise en place des budgets nationaux. Ils se sont dépossédés de la politique commerciale, qui est désormais une compétence exclusive de l'Union. Non plus de possibilité de mettre en œuvre une politique industrielle, puisque les aides d'État sont interdites dans les traités, les aides d'État aux entreprises, ce qui fait que, par exemple, si on voulait aujourd'hui faire une entreprise comme Airbus qui a été financée à l'époque à partir d'emprunts d'État, ça ne serait pas possible.
Voilà. Donc ça veut dire que pour vous, s'agissant des enjeux de pouvoir, en tout cas, Coralie Delhomme, il faut plutôt regarder du côté de la Commission et de la BCE que du Parlement européen.
Il faut regarder ce qui est contenu dans les traités, ce qu'ils prédéterminent, des traités qui ont une valeur quasi constitutionnelle depuis que la Cour de justice les a constitutionnalisés dans les années 60 et que les juridictions nationales ont validé ça en 75 pour la Cour de cassation, en 89 pour le Conseil d'État. Donc le Parlement européen ne peut en aucune façon modifier ces traités qui sont véritablement une constitution économique pour l'Europe.
Laurent Bigorgne.
Oui, je ne sais pas à quoi je dois réagir en l'occurrence. Hein.
Non, sur ces enjeux institutionnels déjà qui vont être importants dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, c'est-à-dire installer aussi de nouveaux pouvoirs au sein de l'Europe pour cette mandature, pour les 5 prochaines années.
Alors, on est donc à nouveau au cœur du sujet, parce que si on doit refaire le mécano institutionnel de quelque chose que nous avons décidé souverainement, ensemble, à chaque élection européenne.
Il faut le connaître.
Ça fait deux fois que vous me coupez la parole.
Vous adressez à moi.
Laissons poursuivre Laurent Bigorgne.
Mais je vous ai laissé parler.
Allez-y.
Donc s'il faut refaire matin, midi et soir l'intégralité du mécano européen, il est évident qu'on sera mort face aux Chinois et aux Américains avant même d'avoir tenté de faire quoi que ce soit en commun. Parce que c'est là qu'est l'enjeu. L'enjeu, c'est pas seulement de dire nous Français, on préférerait ça. Nous, Allemands, on préférerait ça. On a mis des choses en commun. Il y a des choses qui plaisent plus aux Français et d'autres qui leur plaisent moins. C'est la même chose pour tous les États européens. On a mis des choses en commun et on les a mis en leur donnant du sens. À l'époque où on l'a fait, c'est parce qu'on voulait la paix et la stabilité démocratique. Et aujourd'hui, ça reste en jeu. Mais il y a des enjeux supplémentaires qui dépassent, pardon Hervé Gardette, mais les simples enjeux institutionnels, qui sont tout simplement la survie de notre continent. Hein. Et donc, effectivement, les semaines et les mois qui viennent, c'est pour ça que moi j'ai tendance à dramatiser l'enjeu, c'est pas du tout comme l'a dit Coralie de Gaume, un mercato. Hein, on n'est pas dans un marché du football, on est dans quelque chose d'infiniment sérieux, puisqu'on redistribue les pouvoirs entre 28 États membres qui ont mis leur destin en commun pour savoir dans quelle direction nous allons aller dans les années suivantes sur des décisions qui vont être extrêmement structurantes dans tous les champs.
Mais Laurent Bigorne, pour vous, ça veut dire que le mécano institutionnel, ça ne fait pas partie des sujets qui mériteraient d'être mis sur la table et d'être repensés. Juste pour, avant de vous laisser répondre, je voudrais que vous m'expliquiez peut-être comment vous comprenez la proposition qui est faite cette semaine par Emmanuel Macron. Bon, c'est pas la première fois qu'il en parle, et puis c'est pas le seul non plus, mais il répondait à des journalistes de la presse quotidienne régionale. À la question, quel est pour vous le premier chantier d'urgence pour le nouveau Parlement européen ? Il répond, une convention fondatrice européenne.
Ouais, il l'avait déjà dit, c'est pas de cette semaine, hein, il l'avait déjà dit dans sa campagne présidentielle. Et j'ai été frappé d'une chose, parce qu'il y a les débats nationaux. On a vu sur, en France, on a eu un certain nombre de débats politiques autour des candidatures. Il y a aussi eu trois débats de ceux qui sont candidats aujourd'hui à la présidence de la Commission, qui se sont tenus entre la fin avril et le mois de mai. Et tous, et ces candidats, pardon, étaient très secoués par ce qui s'est passé en France à l'occasion des Gilets jaunes. Donc, je suis pas là pour vous dire que l'Europe est parfaite. Il y a aucune construction institutionnelle qui, de toute façon, atteint le stade de la perfection. Que le président de la République dise aujourd'hui, et on verra s'il arrive à faire triompher ou pas cette vue, que il faut discuter entre Européens, et j'allais dire, le plus en capillarité possible, en incluant le plus de citoyens possible, c'est une très bonne chose. Il n'empêche que ça n'encapsule pas la réalité des dossiers qui sont aujourd'hui sur la table, et qui sont des dossiers, je le redis, très structurants, en matière de défense, en matière technologique, en matière d'innovation, de R&D, etc. Et c'est de ça aussi dont il faut pouvoir parler dans les mois qui viennent. Donc, bien sûr, parlons des institutions, mais parlons aussi de leur finalité.
Alors, ces dossiers, justement, qui vont être traités dans les mois qui viennent, on aura l'occasion, bien sûr, de les décliner dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais ce soir, on est un petit peu ambitieux, donc on va essayer de synthétiser tout ça dans le temps qui nous reste. Le dossier, pour vous, Sylvain Kahn, prioritaire pour les 5 ans à venir en Europe, ce serait lequel ? Ce serait le dossier commercial, technologique, environnemental, la défense, Vous avez le choix.
Pour moi, il y a deux dossiers très importants. Le premier a été évoqué, c'est la place de l'Europe dans le monde, parce que le monde est en train de changer dans un sens qui n'est pas favorable aux Européens si les Européens ne sont pas fermes. Laurent Bigorne a évoqué, le fait qu'aujourd'hui on a une puissance chinoise qui, de façon très subtile, parce que c'est uniquement sur le plan commercial et des infrastructures, est en train, si on y prend garde, de priver, on va dire, les décideurs économiques européens et tout ce qui va avec, hein, donc la manière de consommer, la manière de produire, la façon d'avoir du travail, les salaires indirectement. On a donc, une économie chinoise, pour dire la chose très très vite, qui est quand même très très dirigée par l'État chinois, c'est une grosse différence avec l'Europe, qui est en train, je dis les choses trop rapidement, de gagner des parts de marché et de financer énormément, de plus en plus, les activités économiques mondiales et européennes en particulier.
Donc ça veut dire quoi pour vous ? La fermeté, ça passerait par la mise en place d'un protectionnisme européen ?
Pas forcément d'un protectionnisme, mais de conventions ou de traités d'échange qui soient, gagnant-gagnant. Voilà. Or, pour l'instant, l'Union européenne ne l'a pas toujours fait ou ne l'a pas suffisamment fait. Il me semble que cette place de l'Europe dans le monde est rendue d'autant plus compliquée et devient un sujet d'autant plus urgent pour les parlementaires qui vont être élus que l'allié traditionnel des Européens, à savoir les États-Unis d'Amérique, est devenu non seulement un rival, mais un rival inamical et peut-être même hostile. Alors on peut dire que c'est comme ça parce que M. Trump est au pouvoir et que ça ne pourra pas durer plus que les 2 éventuels mandats que ferait M. Trump. Mais d'abord, 8 ans, c'est très long. Et deuxièmement, on ne sait pas dans quelle mesure, c'est pas une évolution un peu plus structurelle. Voilà, donc ça c'est le premier chantier. Il faut que l'Europe devienne plus indépendante.
Alors si vous voulez bien, sur ce premier chantier, je vais aussi demander leur avis à Coralie Delhomme et à Laurent Bigorne, et on reviendra peut-être sur le deuxième, et puis on va voir si ça se recoupe. Mais en tout cas, effectivement, la place de l'Europe dans le monde, est-ce que vous seriez d'accord, Coralie Delhomme, pour dire que c'est effectivement un enjeu des années à venir avec cette compétition qui devient de plus en plus âpre entre les grandes puissances et peut-être la nécessité pour les Européens d'être un petit peu plus costauds voire un peu plus unis sur ces questions de compétition économique, mais pas seulement d'ailleurs.
Concernant les principaux enjeux, moi aussi je pensais à deux, mais le premier qu'on peut évoquer, je pense, ce sont les accords de libre-échange, des accords de libre-échange qui continuent à être négociés en ce moment, qui pour un certain nombre vont continuer d'avancer. Alors on a eu l'entrée en vigueur du CETA, l'accord avec le Canada, et donc la Cour de justice a validé les tribunaux privés devant lesquels désormais des entreprises pourront attaquer des États. Voilà, s'ils jugent que leurs investissements sont en insécurité du fait d'une loi de l'un de ces États.
Et pour vous, ces accords de libre-échange, ils disent quoi ou ils font quoi à l'Europe par rapport à la place qu'elle occupe dans le monde ?
Ben, ils mettent énormément certains d'entre eux, par exemple, si on fait un... Ben, d'abord, il y a celui avec Singapour qui va entrer en vigueur. Alors la commission Juncker en fait des tonnes sur il faut lutter contre les paradis fiscaux, machin, tout ça. Mais en attendant, va entrer en vigueur un accord de libre-échange bientôt avec Singapour qui est un paradis fiscal. L'autre gros morceau qui vient, c'est l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur et qui, lui, risque de mettre énormément en difficulté potentielle nos agriculteurs parce que les pays du Mercosur veulent qu'on importe davantage de viande, de sucre, de soja transgénique, etc., etc. Et il a fait parler de lui récemment parce que les agriculteurs français, notamment les éleveurs bovins, se sont élevés contre ça récemment en disant qu'ils ne tiendraient pas le coup si on élevait les quotas d'importation de viande depuis l'Amérique du Sud avec des conditions d'élevage et des conditions environnementales qui ne sont pas du tout les nôtres. Voilà. Et d'autres accords de libre-échange potentiellement viendront derrière. Celui avec les États-Unis, auquel Emmanuel Macron s'est opposé, mais néanmoins, les négociations vont reprendre, mais c'est un peu un serpent de mer. Il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande et quelques autres.
L'Europe a besoin de se protéger davantage, pour vous, Laurent Bigorne, dans les années à venir, ou en tout cas de faire preuve de davantage de fermeté, comme le disait Sylvain Kahn, dans le cadre de cette compétition internationale.
Moins de naïveté. Effectivement, de la fermeté, et il y a des décisions qui vont dans le bon sens. Il faut savoir qu'on sort d'une mandature où on a enfin acté l'existence d'un fonds européen de défense. C'est la première fois qu'on va financer ensemble des programmes de défense, des programmes d'armement, appelons-les par leur nom. Et là aussi, il a fallu trouver des équilibres. On n'est pas arrivé au bout de cette discussion, mais la décision est actée. Et je trouve que ça va dans le très bon sens, parce que plutôt que de parler d'une armée européenne hypothétique, au moins on se dote d'un outil pragmatique, concret, qui a deux vertus. À la fois de permettre aux industries européennes de défense d'acquérir une taille critique, c'est-à-dire qu'on a un marché, nous, de la défense qui est extraordinairement coupé, et il faut pouvoir nous regrouper pour que, évidemment, on soit compétitif, d'une part. Et puis, aussi, parce qu'on va mettre de la technologie en commun. Une des choses qui fait l'avantage technologique aujourd'hui américain, c'est la puissance de son industrie, de son complexe militaro-industriel. Alors, c'est pas ce qu'on préfère entendre, et c'est pas ce dont on préfère parler, mais c'est aussi une réalité, et cette réalité, elle devient européenne, et c'est très heureux, sans quoi ? Quand on parle de souveraineté, le jour où il n'y a plus d'industrie européenne de défense, il n'y a plus, de toute façon, de souveraineté tout court.
Mais vous en faites, vous, Laurent Bigorne, un enjeu essentiellement industriel, ou bien est-ce que vous considérez que c'est un dossier important également parce que l'Europe aurait besoin éventuellement de se protéger?
Je vais vous répondre.
De protéger, mais de qui? C'est-à-dire de quel agresseur potentiel?
Les deux, mon capitaine, puisqu'on est dans le champ de la défense. Bien sûr que c'est un enjeu industriel, donc d'emploi, de technologie, de leadership technologique, d'investissement, de création de valeur sur le sol européen. Mais c'est aussi un enjeu stratégique, non pas qu'on aille faire ou qu'on souhaite faire la guerre à qui que ce soit, mais comme le disait Sylvain Kahn, on vit dans un monde dangereux. On vit dans un monde où le rapport de force, il se tient si nous avons des capacités militaires qui nous permettent de montrer à ceux qui seraient tentés de venir nous provoquer que nous saurons répondre. Donc des capacités militaires et des doctrines d'emploi, sachant que la France aujourd'hui est, avec la sortie de la Grande-Bretagne dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, le seul État qui aujourd'hui soit capable d'opérer militairement sur des situations extraordinairement complexes. Et donc il faut renforcer, j'allais dire, l'esprit de défense européen si on veut tenir notre place, mais aussi notre souveraineté, et française et européenne, dans un monde de plus en plus dangereux.
Coralie Delhomme, juste brièvement, est-ce que vous considérez que oui, nous vivons dans un monde dangereux? Et deuxième question, que si la réponse en tout cas est positive, que c'est le niveau européen qui est le plus adapté pour répondre à ce danger?
Bah écoutez, moi je sais pas, je croyais que l'Europe c'était la paix, je savais pas qu'on était en guerre contre la Chine.
L'Europe c'est la paix, mais peut-être
que
l'extérieur,
contre
ça n'est pas que la paix non plus.
Écoutez, je sais pas moi.
C'est ça la naïveté européenne, hein. C'est ça la naïveté dont on veut plus. C'est de penser que la Chine n'est qu'un partenaire parmi tant d'autres ou un pays qui nous veut du bien. C'est ça la naïveté.
Sylvain Kahn.
Et ça nous ramène aux élections européennes. Parce que, effectivement, on a évoqué jusqu'à présent les États-Unis et la Chine, mais également à l'instant la Russie. Or, la Russie, c'est, disons, je ne sais pas si c'est un voisin de l'Union européenne, mais en tout cas, c'est un pays avec qui on a près de 3000 km de frontières. Bon. Donc, on fantasme beaucoup sur la Russie, alors que la Russie est en fait un pays qui est sans doute à la fois moins solide, moins en expansion, moins dynamique et moins puissant et que les États-Unis et que la République populaire de Chine. Mais comme c'est celui qui est le plus proche de nous, c'est quand même celui, disons, dont les capacités de nuisance, en tout cas je parle de l'administration Poutine, sont les plus grandes. Voilà. La Russie, de Poutine en tous les cas, est embêtée quand il y a une idée des Européens. Parce que, du coup, quand les Européens essayent, disons, de répondre d'une manière ou d'une autre au fait qu'une partie des Ukrainiens ont envie de rejoindre l'UE, qu'une grande majorité des Géorgiens ont envie de rejoindre l'UE, ben la Russie poutinienne, ça la gêne que l'espace post-soviétique puisse se sentir attiré par l'Union européenne. Alors une fois qu'on a dit ça, pourquoi on parle des élections européennes à mon avis ? Parce qu'il se trouve que dans l'Europe d'aujourd'hui, je parle du personnel politique de l'Europe d'aujourd'hui, dans l'espace politique européen d'aujourd'hui, il y a des gouvernements et des mouvements politiques dont certains sont au pouvoir qui pensent que Vladimir Poutine et son administration font partie des meilleurs amis des Européens. Il y a un gouvernement, le gouvernement de l'Italie, qui vient de signer avec le gouvernement chinois, de manière unilatérale, un protocole d'accord pour financer un certain nombre d'infrastructures qui vont être payées directement par la Chine, sans à aucun moment s'être concerté avec ses partenaires européens. Donc, aux élections européennes, le vote qui va être celui des citoyens, selon qu'on donne plus ou moins de poids à ceux qui pensent que c'est pas mal d'être sympathique avec M. Poutine ou avec M. Xi Jinping, ou selon qu'on donne sa voix à ceux qui pensent que non, au contraire, il faut sortir de la naïveté, ça va beaucoup jouer.
Et Laurent Bégonier, Coralie Delhomme veut le réagir.
Oui, ça a été un fait de campagne. Pour la première fois, on a des forces qui se disent souverainistes et qui... objectivement à guerre libre, de façon totalement décomplexée, pactise qui avec les Chinois, ça vient d'être rappelé, qui avec les Russes, c'est le cas du vice-chancelier autrichien qui s'est fait prendre la main dans le sac parce qu'il était au fond prêt à obtenir de l'argent russe en échange de mesures accommodantes pour tel ou tel type d'investissement. Évidemment, de l'extrême droite française, mais de la quasi-totalité des extrêmes droites européennes qui sont prêts à accepter les conseils de Monsieur Bannon. On pense que ce ne sont que des conseils. Il n'y a pas de stratégie concertée avec Monsieur Trump ni avec les durs des républicains aux États-Unis. Donc, on voit bien que toute une partie, j'ai pas dit tout, mais toute une partie du discours souverainiste est en fait celui qui est prêt à nous vendre et qui est prêt à nous vendre à ceux qui aujourd'hui sont les plus grands périls et ceux qui nous veulent le plus de mal hors de l'Union européenne.
Coralie Delhomme.
C'est un tout autre sujet, mais vous demandiez les sujets qu'on souhaitait évoquer qui seront importants
pour la prochaine mandature.
Ouais. Je peux y aller.
Bien sûr.
Parce que c'est important et je voulais quand même le signaler.
Et qu'il nous reste 5 minutes.
Il y a la question du budget de la zone euro. Budget de la zone euro sur lequel les pays se sont entendus, mais entendus hyper à minima. Voilà. Emmanuel Macron en avait fait son grand projet et il voulait que le pendant de la monnaie fédérale qu'est l'euro soit un budget fédéral sans lequel l'euro ne peut pas fonctionner normalement, ne peut pas fonctionner et probablement même ne peut pas survivre. Et sur ce budget, en fait, qui devait être au départ un budget ambitieux et autonome au sein de l'eurozone, il a été décidé que finalement ce serait une petite ligne budgétaire intégrée au budget de l'UE, donc non autonome et d'un montant modeste. Donc il faudra voir, et Bruno Le Maire a dit il y a 2 jours qu'il allait proposer avec l'Allemagne quelque chose à partir du mois de juin. On va voir, ce sera probablement modeste, mais on va voir à quel point. Et il a dit lui-même, le même Bruno Le Maire, que l'euro n'avait jamais été aussi menacé. C'est lié notamment au fait que y a des excédents faramineux en zone euro qui sont principalement des excédents allemands et qui ont tendance à tourner dans l'économie casino puisque l'Allemagne ne procède pas à des investissements massifs alors qu'elle en aurait sans doute très besoin pour entretenir ses équipements publics. Donc Il y a ce danger qui plane sur l'euro et qui pourrait se révéler dramatique en cas de prochaine crise financière. Et l'enjeu de ce budget de la zone euro est donc important. Il faudra voir ce que ça donne en juin.
Il y a une possible prochaine crise financière. Il y a une crise, elle, qui est bien là. C'est la crise climatique sur les questions environnementales. Et je voudrais revenir quand même juste pour terminer du coup l'émission sur finalement ce constat que vous faites, surtout d'ailleurs Sylvain Kahn et Laurent Bigorne ce soir, d'une Europe plongée dans un écosystème mondial qui est celui d'une compétition qui devient plus âpre pour les Européens. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème justement de penser l'Europe dans cet espace de compétition, à un moment donné où l'enjeu majeur pour l'avenir du monde, disons-le, c'est quand même celui des questions environnementales. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour coopérer avec le reste du monde si on se vit comme étant menacé, agressé, assailli par ceux qui nous entourent, Sylvain Kahn.
Mais vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que on a parlé de trois grands pays, bon, les États-Unis actuels, la Russie et la Chine. Sur ces trois puissance, c'est-à-dire trois gouvernements qui veulent agir comme des puissances, il y en a deux, pour aller vite, qui ne se soucient pas de l'enjeu climatique, et un qui est climato-sceptique. D'accord ? Donc, le fait de, en tant qu'Européen, de vouloir garder son indépendance vis-à-vis de ces pays qui sont, comme le dit Zaki Laïdi, des pays souverainistes, c'est-à-dire que ce sont des États dont la diplomatie ne cherche pas à considérer que leur immense pouvoir doit être au service d'une vision de l'intérêt général de l'humanité, dont on peut débattre, mais doit être exclusivement au service de leur intérêt national. C'est ça qui caractérise les gouvernements de ces trois puissances actuellement. C'est bien pour ça que c'est un problème. Or, l'une des caractéristiques de l'Union européenne, avec plus ou moins d'adresse ou de maladresse, c'est précisément d'essayer d'imaginer que les coopération internationale doivent avoir pour finalité quelque chose qui ressemble à un intérêt général de l'humanité. Donc c'est de facto, l'Union européenne est depuis 20 ans maintenant, c'est le titre d'un de nos chapitres, le laboratoire d'un monde habitable. C'est là où on fait le plus. Alors on peut toujours faire plus et on doit faire plus, mais c'est là où on fait déjà le plus pour la transition énergétique et pour la lutte contre le changement climatique et pour la santé publique et du consommateur et pour une agriculture qui soit la moins néfaste pour l'environnement. D'accord ? Donc en étant ferme avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, en passant des traités de libre-échange qui mettent au premier rang, on peut peut-être faire encore mieux, les préoccupations environnementales. D'accord.
Même si le libre-échange est aussi critiqué pour aggraver justement
Là, il y a des débats.
Mais c'est-à-dire que on va pas faire l'émission dessus parce qu'elle est terminée.
Voilà. C'est un débat. C'est-à-dire qu'on peut pas encore trancher, mais en règle générale, l'Union européenne, quand elle passe des traités de libre-échange, elle essaye de le faire toujours en exportant entre guillemets ses normes. Voilà. Bon. Donc, en vérité, les deux choses se rejoignent, c'est-à-dire être ferme vis-à-vis de la Russie, de la Chine et des États-Unis, c'est en même temps être très soucieux d'un combat planétaire pour le climat.
Bon, on était évidemment un petit peu généraliste ce soir puisqu'on a essayé d'évoquer un certain nombre de grands dossiers qui vont attendre les Européens pour les 5 prochaines années. Bah, ça nous donne un certain nombre de sujets justement pour les mois à venir. Merci beaucoup d'avoir discuté de ces questions. Dans quelques heures, c'est la fin du traitement des Européennes sur les médias de l'audiovisuel. Et on pourra évidemment dire qu'il y a un scrutin, mais on ne pourra plus commenter. Merci en tout cas à tous les trois, donc Sylvain Kahn, Coralie Delhomme et Laurent Bigorne d'avoir participé à ce club. Merci également à l'équipe du Grand, Antoine Dulster, Amélie Perrault, Fanny Richet, Virginie Leduo et Cyril Marchand. Émission réalisée par Payre et Legras, avec à la prise de son Julie Garraud, Cédric Châtelu et Antoine Espel. Je vous donne rendez-vous demain dans Politique à midi pour une émission consacrée au cinéma. Le cinéma, une arme de projection politique. Il sera notamment question de soft power. Dans 3 minutes, vous allez retrouver une émission spéciale de la dispute depuis la BNF. Émission animée par Lucille Comeau et consacrée à Notre-Dame de Paris avec comme invité spécial le manuscrit de Victor Hugo. Tout ça, c'est dans 3 minutes. Pour l'heure, c'est le rappel des titres et c'est avec Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.